Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ? Salut et bienvenue dans cette première réunion de 2024. Alors comment ça va pour cette nouvelle année, Déborah ?
C'est un peu tôt là pour se prononcer, il n'y a qu'une semaine qui est passée.
La prudence, mais très bien.
Ouais, je sens que ça va être compliqué dès la semaine prochaine.
D'accord. Et Mathieu ?
Ça va, j'ai été très malade la semaine dernière, d'où mon intonation de canard, je pense, durant cette réunion.
Moi, je trouve que c'est comme d'habitude, hein, je vois pas de différence.
Oui, c'est vrai, j'ai toujours le nez bouché, mais là il est... C'est fini quoi, voilà, là tu peux rien faire passer.
Ok. La dernière fois qu'on s'était réunis, je crois que c'était justement pour Aquaman 2, puisqu'on a été tous les trois à le voir au cinéma en décembre. On avait gagné le gros lot, comme on peut dire, puisque pour rappel, on n'avait pas eu de projection presse de Rebel Moon et de Aquaman, c'était les deux événements de la fin d'année. Donc à l'époque, on se plaignait un peu, mais en même temps, Antoine s'est farci à Rebel Moon le dernier jour avant les vacances. Donc finalement, je pense qu'on s'en est bien sorti. Et en parlant de dope, d'ailleurs, je regardais les chiffres sur le site Écran Large et les critiques de Rebel Moon et Aquaman 2 ont plutôt bien marché en décembre, franchement. Alors, on n'est pas sur les scores de Les Trois Mousquetaires Milady qui a cartonné comme le premier. Franchement, on va pas essayer de comprendre. Aquaman 2, ça reste loin de la critique de The Flash qui avait cartonné, évidemment. Tout ça, ça reste loin de Astérix qui est le grand vainqueur de 2023. On va pas chercher à comprendre. Non, mais on rigole, plus parce que le film était le flop 1 de 2023 pour nous côté ciné. Mais c'est le top 1 côté critique, donc on peut dire merci Guillaume Canet et Pathé quand même. Aquaman 2, ça intéressait plein de gens et je crois qu'il y a évidemment l'effet cadavre, l'odeur du sang qui a attiré tout le monde parce qu'on l'a bien vu. Nous, on l'attendait plutôt gentiment le film. On a bien aimé le premier, surtout moi.
Non, ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je l'attendais pas gentiment. Ouais. Aller le rattraper, justement. Un mardi en salle à 20h, je l'attendais pas gentiment du tout.
Non, ouais, moi j'aime bien aussi. Oui, ouais, non, mais voilà, le premier il est rigolo. Il y a des kaijus, il y a James Wan qui s'y amuse, il y a des références au cinéma d'horreur. Bon, voilà, la suite n'a pas du tout été à la hauteur, mais il y avait de quoi l'attendre, beaucoup plus que précédent projet d'ici Blue Beetle Shazam 2 quoi.
Voilà, donc à part Déborah, il y a des gens qui attendaient et se disaient que ça pouvait être sympathique et ça pouvait clore cette ère du chaos avec une note un petit peu amusante. De toute évidence, ça n'a pas été le cas. Et en même temps, c'est vrai que quand on retrace le cauchemar de 2023, donc comme tu disais Mathieu, on a commencé avec Shazam 2. Ensuite, il y a eu The Flash. Ensuite, il y a eu Blue Beetle. Et ensuite, Aquaman 2. Ça fait beaucoup.
C'est incroyable quand même. Rarement un studio a sorti de telles séries. Quoi.
Mais déjà, autant de films de super-héros d'un même univers en si peu de mois. Même Marvel, je suis pas sûr qu'ils en aient déjà sorti 4. Bon, faudra vérifier si un jour on fait un article dessus qu'on dise pas de conneries. Mais de mémoire, j'ai l'impression que c'est un peu exceptionnel. Et si vous deviez conseiller le pire DC de 2023 à un ennemi ou une ennemie, ce serait lequel ?
Mais en fait, ça dépend tellement. Genre, je pense que quelqu'un qui aime profondément DC, je lui recommanderais The Flash. Et quelqu'un qui a strictement aucune attache à DC, mais juste au film de super-héros, je pense que je lui conseillerais Blue Beetle. Genre vraiment pour avoir les deux spectres de ce qui va pas du tout.
Et toi, Mathieu ?
Ouais, c'est vrai que d'un côté, t'as la catastrophe industrielle totale et l'inconséquence la plus totale. C'est assez amusant, c'est les facettes du film pourri américain. Ouais, The Flash, c'est quand même... Il y a un côté un peu, bon, je le dis tout le temps, mais dernier clou du cercueil, non seulement de DC, mais presque peut-être même un peu du genre, tu vois. Là où Shazam 2 et Blue Beetle, c'est juste des erreurs de base, ça devrait pas exister, quoi. Voilà.
Après, là, on en rigole, mais moi, quand je repense à il y a 10 ans, le début avec Man of Steel, franchement, je suis un peu dégoûté dans le sens où à l'époque, moi, j'ai vraiment aimé Man of Steel. J'ai été le voir deux fois, j'ai emmené mon ex, il a fait une quitte en sortant, mais dans tous les cas, j'étais excité, j'étais vraiment enthousiaste et je me disais que ça démarrait vachement bien. Donc là, on est à la fin quand même de 10 ans avec une quinzaine de films, si on compte pas les films à côté de l'univers étendu et qu'on ne différencie pas Justice League et Snyder Cut. Donc ça fait quand même, enfin, je sais pas, quand j'y repense, je me dis c'est un cas d'école, mais il y a un truc un petit peu triste à avoir raté quelque chose d'aussi évident sur le papier. À partir de quand, pour vous, ça s'est vautré ? Quel est le film qui fait que ça a commencé à être le début de la dégringolade ? C'est quoi le moment marquant ?
Bah, moi, je devrais dire qu'on sentait déjà dès Batman vs Superman, donc le deuxième film de l'univers, que ça allait être beaucoup plus bancal que l'univers de Marvel, qui, certes, les films pris indépendamment les uns des autres, on peut leur trouver tout plein de défauts, mais en tant qu'univers, ça tenait vachement bien, là où dès BVS, en fait, on sentait que ce truc allait vraiment pas se tenir. Et ensuite, il y a eu Suicide Squad, qui est le troisième film de l'univers, qui est un cas d'école de tout ce qui fait que l'univers s'est cassé la gueule après.
Okay. Ouais, moi j'aime pas trop BVS en tant que film, enfin Batman versus Superman. Mais pour le coup, en le voyant en salle, je trouvais que ça restait relativement cohérent en tant qu'univers. Enfin, je me suis dit qu'il pouvait aller quelque part. Et comme on le disait hier, je crois, ou non, il y a quelques jours, sur le papier, Batman versus Superman, ça devait marcher. Enfin, c'est ouais. deux IP hyper puissantes. Mais finalement, ça n'a pas tant marché que ça. Enfin, ils n'ont même pas décroché le milliard, tu vois. Et ouais, je pense que le Swift, il se fait entre Batman vs Superman et Suicide Squad. Parce que vu qu'ils ont interféré la post-prod de l'un par rapport à l'autre, c'est là que non seulement on s'est dit « Ah, va y avoir des films pourris », mais en plus, les mecs qui sont aux commandes, ils sont déjà en panique. Et bon, ça s'est confirmé ensuite avec la Bérésina Justice League, mais ouais, c'était le verre était dans le fruit. Plusieurs verres étaient déjà dans le fruit.
Zack Snyder était dans le fruit,
oh,
en fait.
Oh non, le pauvre. Elle cherche la guerre, ça y est. En fait, on est en train de dire que cet univers qui a commencé en 2013, il y a eu un film qui marchait, Man of Steel, peu importe ce qu'on en pense, qui était à peu près carré. Et dès la deuxième fournée en 2016, Suicide Squad et Batman v Superman, ça a commencé à déconner. Et c'était que le début, puisqu'après, en 2017, il y a eu Wonder Woman et Justice League. En 2018, il y a eu Aquaman. En 2019, il y a eu Shazam. En 2020, Birds of Prey et Wonder Woman 1984. En 2021, The Suicide Squad et le Snyder Cut. En 2022, Black Adam. Et en 2023, donc comme on disait, Shazam 2, The Flash, Blue Beetle, Aquaman 2. C'est un univers qui, en fait, dès le début, commençait à être bancal. Mais c'est fou que ça ait duré aussi longtemps et que ça ait été bancal de autant de manières différentes, quoi.
On dirait les vidéos dans les butisés, t'es d'une personne qui se casse la gueule, mais en plusieurs étapes au ralenti, ouais, comme ça. C'est vraiment ça.
S'écrase vraiment la gueule dans le cas niveau. Donc l'univers étendu d'ici 15 films, 10 ans. Et bon, bah là, en fait, on en parle parce que c'est fini, officiellement. C'est pas un avis, c'est pas une opinion, c'est pas nous qui sommes méchants. Hein. C'est juste, c'est fini parce que le studio Warner Bros. Qui gère ça a décidé de rebooter avec une nouvelle direction à la tête de DC Studio, James Gunn, le réalisateur, et Peter Safran, le producteur. C'est fini aussi parce que Aquaman 2, c'était le dernier film officiel du DCEU. Et c'est fini parce que Aquaman 2, comme tous les autres, c'est vautré. Donc, la petite miette d'espoir que peut-être quelqu'un sur cette planète avait de revoir ses acteurs, ses actrices dans ses rôles, a priori, c'est fini de chez fini. Alors là, on a une occasion unique, je pense, parce que c'est vrai que cette année, il y a eu le bordel chez Marvel, il y a eu le flop de Ant-Man 3, il y a eu le méga flop de The Marvels, mais le MCU, c'est pas fini, ça continue. Donc on peut dire, comment commenter un chapitre ? Mais là, DCU, c'est pas un chapitre. C'est genre, on a absolument toute l'histoire de A à Z de cette partie de l'univers avant le reboot. Donc à l'origine, c'était évidemment une manière de rivaliser avec Marvel, c'était une manière de faire un univers étendu tout à fait logique avec Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman et tout le bordel, avec la Justice League, avec la Ligue des... Comment il s'appelle dans Black Adam ? C'est quoi l'autre truc ?
La Ligue de Justice d'Amérique.
Voilà, tu m'étonnes que je confonde les deux, je m'en souviens pas.
Attends, tu mets un doute. Bon, au pire, personne ne saura, je me suis trompé au pire.
C'est JLA, je crois, Justice League of America.
Non. Ah, je crois que c'est ça, ouais, il me semble, ça me dit quelque chose.
Ah, c'est
la Ligue de Justice d'Amérique, je crois que je le fais en français en fait, ouais, c'est ça.
Ok, très bien. Ouais, donc ce qui est ouf, c'est qu'au début, c'était, comme tu disais Mathieu, c'était plus encore que Marvel, t'avais des héros beaucoup plus iconiques, Superman et Batman, et même Wonder Woman qui n'avait pas eu de film, mais qui était quand même extrêmement populaire. Comment on a pu rater un univers comme ça ? Enfin, je dis « on », c'est pas notre problème, mais comment ils ont pu rater ça ? Et on peut revenir au début, donc Man of Steel, c'est celui sur lequel on s'est dit qu'a priori, les cartes étaient les bonnes, les gens étaient les bonnes personnes et ça a plutôt bien commencé. Parce que si on se remet dans le contexte de l'époque, à l'époque Warner Bros. Sort de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, donc ils ont le vent en poupe, ils ont, on peut dire, révolutionné au moins d'un point de vue industriel la manière de faire et de vendre les films de super-héros avec une qualité, un succès absolument phénoménal. Et ils se sont dit, enchaînons, sans Christopher Nolan qui est resté producteur, qu'est-ce qu'on fait ? On sort la carte Superman.
Ouais, en fait, pour construire un univers étendu et vraiment faire concurrence à Marvel, ce qu'ils devaient avoir dans le viseur depuis un paquet de temps quand même. Depuis un paquet de temps, finalement, Marvel, c'était assez neuf à ce moment-là quand même.
Oui, il y avait 2012 Avengers, donc c'était un peu la preuve absolue qu'il y avait un truc incroyable qui se passait et que les films de super-héros étaient plus que des films isolés et qu'on pouvait en faire vraiment un giga événement.
Mais ils avaient quand même un problème, c'est qu'ils n'avaient qu'un seul vrai héros très identifié, puisque certes, les Dark Knight de Nolan ont... surcartonné. Et d'ailleurs, on va le voir, ça a eu pas mal de conséquences. Mais côté Superman, c'était plus compliqué parce qu'il y a eu Superman Returns, du coup, de Bryan Singer.
C'était quoi? C'était 2006, ça, non?
Oui.
Il me semble, ouais. Qui n'a pas très bien marché et qui avait en plus une approche très... C'était un hommage, en fait, à Richard Donner, etc. Et bon, on peut pas dire qu'elle a convaincu le grand public. Mmh. Et ça, Warner l'a bien pigé. Et du coup, ils ont essayé de rebooter Superman un paquet de fois. Mais clairement, l'impact des Batman de Nolan a été primordial sur la direction qu'ils ont prise. Mais il y a eu pas mal de projets Superman avant, dont on peut vite fait parler, je pense. Parce qu'ils sont parfois très intéressants, mais on sent qu'ils sont pas allés au bout, justement. Parce qu'ils se sont dit, ben non, il faut qu'on ait... Ils voulaient cette noirceur qui, plus tard... Ouais. Va paradoxalement, c'est ce qui va les mettre au pied du mur un peu, mais ouais, ils le voulaient parce qu'il y avait une version avec Grant Morrison, Mark Wade, Geoff Johns et Brad Meltzer qui avait l'air assez intéressante. Et surtout, il y a, bon, moi je pense que c'est la version qui me fait évidemment le plus rêver, mais qui était la version de Mark Millar et Matthew Vaughn, hein, donc pré-Kingsman, parce que c'était un peu après, il me semble.
Les postes qui cassent.
Et post-Kick-Ass, probablement.
2011, ouais. Kick-Ass, non? 2010, 2011?
Oh, la colle.
Ça devait être à peu près la même époque,
bah,
non?
Si c'était ouais. 2010, ça devait être ouais, juste un peu avant, alors.
J'aurais dit 2009, mais...
X-Men First Class. Bon, faudrait qu'on vérifie.
Ouais,
2011,
bon,
je crois. First Class.
C'est flou. Ouais. Mais ça aurait pu être très sympa, d'autant ouais. qu'eux, ils avaient prévu un truc de dingue, une sorte de trilogie, avec un film qui sort tous les ans, un peu sur le modèle Seigneur des Anneaux, tu sais, avec un tournage commun, ouais. et ils avaient prévu des heures et des heures. Et ils voulaient vraiment raconter l'histoire de Superman de tout début jusqu'à sa fin. Avec ils ramenaient tous les héros les plus, enfin les méchants et les personnages les plus célèbres de l'univers d'ici, et c'était hyper ambitieux, mais ils avaient aussi une approche qui était très en rapport avec ce que faisait Donner à l'époque. Enfin, il y avait bon, c'est pas étonnant de la part de Matthew Vaughn de se revendiquer du cinéma de Donner. Et bon, on saura jamais évidemment parce que c'est des projets qui ont été évoqués, voilà, on n'a pas de raison explicite de l'arrêt. Mais il y a fort à parier quand même que le succès des films de Nolan et l'approche un peu plus Dark Sazuke, on va dire, du film de super-héros, les aient poussés à mettre un stop à un projet qui aurait coûté très très, ouais. très très cher.
Oui, puis j'imagine que le côté lancement de trilogie directe, déjà qu'avec Superman Returns, ils voulaient faire des suites et ouais. qu'après ils ont dit en fait on va pas faire les suites même si c'était le projet. Donc là j'imagine que l'idée trois films d'un coup, c'est un peu chaud quand même.
Bah, clairement, ils étaient dans l'état d'esprit de balayer Superman Returns. Bah, en 2008, quand la Warner a commencé à recevoir plein de propositions de différents scénaristes ou auteurs, bon bah Grant Morrison y a participé et il a dit un truc que je trouve assez drôle, c'est il suffit de considérer Superman Returns comme le Hulk d'Ang Lee. Donc oh, en gros, juste ouais. on fait comme si ce film n'existait pas, on refait un film totalement décorrélé mmh. sur le même héros, et puis comme il y a eu l'incroyable Hulk qui avait bien fonctionné, c'était un petit peu la preuve que en fait le public s'en foutait d'avoir des films qui se suivent à partir du moment où on assume que c'est un nouveau film sur le même personnage, c'est bon, le public peut acheter. C'était clairement l'état d'esprit de Superman Returns n'existe plus, on part sur totalement autre chose.
Ça, c'était pression, ça, comme ouais. Nostradamus, le mec, quoi.
C'est vrai que Superman Returns, il est vraiment tourné vers le passé. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'ai fait un article là-dessus sur le fait que c'était un peu le dernier dinosaure et le vestige d'une époque révolue, c'est un peu le chant du cygne, qui aurait dû relancer un truc, selon Bryan Singer. Le pauvre, il a pas pu faire plein de films. et en fait, c'était vraiment la célébration d'une époque révolue, quand tu voyais qu'en face, il y avait l'Iron Man et surtout The Dark Knight qui célébrait une nouvelle manière de faire le super-héros. Donc c'est sûr que ça aurait été sûrement très curieux que, imaginons dans le multivers, que Superman Returns ait eu un 2, un 3, un 4 pendant que The Dark Knight et tout le bordel étaient lancés et que les Avengers arrivaient. Bon, dans tous les cas, tout ça n'a pas eu lieu. Donc comment on est arrivé à Zack Snyder, à Christopher Nolan qui se dit « Ok, je veux bien produire et superviser un nouveau Superman
» Bah, en fait, le fait est qu'ils avaient besoin de faire un nouveau Superman puisqu'il y a eu un procès contre quelqu'un qui s'appelle Jerome Siegel et qui est genre la personne qui gère les droits de Superman, etc. Bon, c'est un peu compliqué, mais... À la fin, Warner a eu le droit de continuer à utiliser les droits de Superman comme il voulait, mais à la fin de la décision de la Cour de justice, il est bien noté qu'ils doivent mettre en branle un projet Superman d'ici 2011 pour pouvoir avoir ce type de droit. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, il faut qu'ils le fassent. Ouais. Ils veulent pouvoir l'utiliser comme ils veulent le faire.
Ce qui arrive très souvent, Hollywood.
Ce qui arrive très souvent, il me semble.
Les meilleurs films sont faits comme ça.
Ouais, hein. je suis pas certain, mais il me semble que les The Amazing Spider-Man, c'est un peu plus ou moins aussi.
Je sais plus, moi, je pense aux 4 Fantastiques. Il me semble que c'est des projets qui ont été lancés parce qu'il y avait un rush qu'il fallait absolument.
Oui, parce que sinon, ils pouvaient être poursuivis par la famille de Jerry Spiegler.
Et
si justement, il y avait un film non produit.
De thunes, forcément être poursuivi de thunes que tu avais plus ou moins, et du coup, tu leur devais de l'argent sans avoir fait un film qui permettait d'avoir l'argent, juste en termes de recettes potentiellement perçues par les gens qui détenaient les droits. Du coup, il fallait qu'il y ait un film, sinon il n'y a pas de recettes, mais ils doivent payer quand même les gens qui ont les droits.
Mais là comme tu dis, c'est pas qu'ils perdent les droits s'ils le font pas, c'est que l'autre gars a le droit de les réattaquer en justice s'ils le font pas. Bon, bref, c'est le détail, mais.
Donc il y avait une petite urgence industrielle à faire un film.
Il fallait qu'ils le fassent, voilà. Et donc, ils sont tournés vers Christopher Nolan.
Logique.
Tout simplement. Enfin, je veux dire, ils sont pas allés plus loin que ça. Ils aimeraient bien que lui, il aille plus vite dans ce qu'il fait en Batman, parce que The Dark Knight a été un gigantesque carton. Mais Nolan, lui, il bloque un peu. En plus, Heath Ledger est décédé à ce moment-là, donc il est un peu... Il galère, on peut le comprendre. Et pendant qu'il écrit The Dark Knight Rises, je crois, avec David S. Goyer, du coup, son scénariste, il se dit... Enfin, il lui demande à Goyer quelle serait sa vision de Superman, et du coup Goyer lui pitch son Superman, mais de façon très informelle, et Nolan il adore, il trouve ça génial, il trouve ça hyper intéressant, mais il veut pas le réaliser pour plusieurs raisons, notamment parce que il aime pas être sur plusieurs projets à la suite, et à l'époque il est en train de développer aussi Inception, et que du coup il veut pas multiplier
Inception.
Les projets. Et oui.
Inception. Ouais, mais
cette fois
Roger c'est Corman.
Cette fois c'est parce que je suis enrhumé, j'ai le droit.
Oui,
il dit
c'est
Nolan,
pas Nolan.
Christopher Nolan, ouais. On prononce tous les noms anglais de façon arbitraire.
Oui,
pourquoi c'est vrai que...
C'est drôle parce que ton arbitraire, c'est le contraire de l'arbitraire des autres.
Pourquoi on dit Scorsese et pas Scorsese? Alors, dites-moi.
Il y a des gens qui disent.
Mais on les aime pas.
Ouais, donc Warner se dit que c'est Nolan qui va prévoir Warner en disant bah en fait vous pouvez le faire sans moi, voilà l'idée, voilà un peu l'équipe et moi je veux bien superviser.
Après,
rester là,
voilà, il supervise et c'est je pense qu'il reste derrière pour trouver un réalisateur notamment. Ouais. Guillermo del Toro a été approché et il l'aurait peut-être fait si il n'était pas sur un autre projet qui s'appelle Les Montagnes Hallucinées.
Le
qui,
pauvre.
Évidemment,
donc, projet qui ne s'est pas
plus.
Fait comme on le sait
évidemment. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ils sont en train de réfléchir à est-ce que ce sera en lien avec The Dark Knight. Et dans un podcast qui s'appelle Happy Sad Confused, ils disaient qu'à un moment, ils y ont réfléchi. Et au moment où ils ont engagé donc Zack Snyder, Nolan a fini par dire « Non, je veux que ça reste mon truc ». Et Snyder a dit « Je le comprends tout à fait ». Voilà. Donc
je crois
on
aussi
lance
qu'il
citait
le rôle de Batman, comme à la fin de Dark Knight Rises, Joseph Gordon-Levitt devient le prochain Batman.
Ouais.
Il se disait, si jamais peut-être que Batman revient dans notre univers, ça veut dire que si on est connecté, il faut que Joseph Gordon-Levitt soit là. Donc peut-être qu'ils ne voulaient pas aussi se traîner un truc qui n'était pas leur ambition à l'époque, et comme on verra après, c'est pas vraiment le Batman qu'ils avaient en tête. Je crois aussi un truc qui est drôle dans les réalisateurs qui ont failli le faire, c'est Robert Zemeckis qui a raconté qu'il a été vraiment... On lui a plus ou moins proposé... Et il a dit, en une seconde, j'ai dit non. Genre, vraiment, j'ai pas hésité une seule fois. Et ça me fait rire parce que dans le bordel de The Flash, dont on va reparler plus tard, Zemeckis, à un moment, ce nom est sorti du chapeau. Et il a été recité comme potentiel réalisateur pour ce film. Et quand le truc a changé
après,
15 fois,
qui
ça peut
pas été
trop
cité
rire,
comme potentiel. Toi, t'étais cité, non, Geoffrey, comme potentiel réalisateur de The Flash. T'étais dans la shortlist.
Un des 143 scénaristes, forcément.
Et je crois qu'il y avait aussi Ben Affleck, Tony Scott, Matt Reeves, Duncan Jones et beaucoup de gens avant que Zack Snyder soit choisi. Et
comme
fait...
souvent, quand sur des projets comme ça, ils balancent plein de noms, mais ils ont été envisagés par le studio. Alors il y avait quelqu'un, il y avait une petite souris dans la pièce qui a noté et qui les a envoyés à The Hollywood Reporter, tu vois.
C'est l'agent de tous ces réalisateurs qui a dit à Hollywood Reporter, oui, alors mon réalisateur est évoqué comme potentiel remplaçant.
Mais c'est toujours rigolo de se demander à quoi aurait ressemblé le film.
Ouais, évidemment.
Moi, j'avoue que Superman par Del Toro, bon, c'est peut-être le côté un peu fanboy qui parle, mais c'est pas
ça
que j'étais
improbable,
hyper enthousiaste, mais je suis surtout hyper curieux de voir comment il aurait amené ça, quoi.
Mais c'est surtout marrant, je trouve, de comparer les gens qui ont été choisis pour ça par rapport à ceux qui ont été choisis après pour DC, puisque Zack Snyder, c'était assez logique. Il avait fait L'Armée des Morts, 300, Watchmen, donc il avait déjà fait une super production chez Warner, il avait déjà touché aux super-héros, il avait déjà fait des petits films de petits malins qu'il avait un peu mis sur les radars, donc sur le papier, c'était un très bon choix, je pense, de lui passer le relais. En plus, Christopher Nolan, c'est évident qu'il a dû valider le choix et donner son avis, et c'est clairement lui qui a dû dire « Zack Snyder, ça me va très bien ». D'ailleurs, depuis, il a dit plein de fois qu'il trouve que Watchmen est un très grand film et que c'est un film vraiment important pour l'histoire des super-héros.
Il s'entend très bien, je crois.
Ouais, je crois qu'encore aujourd'hui, il continue à le défendre, même avec Rebel Moon. Donc, comme quoi, tout est possible. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc, en 2010, Zack Snyder est engagé, en fin 2010. Et je crois que dès le départ, quand il parlait, les producteurs de Warner Bros., il parlait déjà d'un univers étendu. Donc, c'était vraiment incrusté dès le départ. Il faut que ce truc...
C'était conditionné au succès de Man of Steel, succès financier, évidemment. Mais oui, dès le départ, il y avait l'objectif de faire une suite. Si le premier fonctionne, il n'y avait pas de raison de rester là-dessus.
Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ils font des bons choix, je trouve. Enfin, la plupart des choix qui ont mené à Man of Steel sont judicieux. Henry Cavill, choix de casting, parfait.
Oui, ça, je pense que même quand on n'aime pas ces films-là, c'est un très bon acteur pour le rôle de Superman.
Non seulement il a le look, le jeu de Superman. Non mais voilà, non seulement il a tout ça, mais en plus, il est encore relativement inconnu à l'époque. Enfin, en fait, il a de la marge pour lui faire signer un contrat sur 15 films. Enfin, vraiment, c'est choix de génie. Mmh. Et même artistiquement, je trouve qu'il y a quand même une... Ils ont réussi à trouver un mi-chemin entre le film de super-héros franchisé et quand même une petite patte un peu sombre qui est vraiment la Snyder Touch pour le coup. Mmh. Et le film arrive à garder un peu cet équilibre-là. Donc ouais, non, ça partait très bien.
Mais quand on regarde tout le reste du casting, Amy Adams, Russell Crowe, Michael Shannon, c'est quand même ça de la gueule, quoi. Ouais. C'est, t'as
Jesse Eisenberg... bah non, c'était pas déjà dans celui-là, je suis bête.
Tu confonds tout, Déborah. Non, mais en fait, quand le film est lancé, je me souviens qu'en voyant le casting s'assembler, tu te dis, c'est un film sérieux. C'est un film qui veut se placer dans les pas de Dark Knight avec des acteurs de bon calibre, avec Hans Zimmer à la musique. C'est vraiment genre, il y a un rapport, une filiation, et en même temps, on prend ça au sérieux, on va faire un vrai film noble.
Et puis, il faut parler du budget aussi. Mm-hmm. 225 millions de budget pour le film. Rien qu'avec ça, tu savais que tu pouvais t'attendre à quelque chose quand même... pas mieux que Superman Returns, donc j'ai un souvenir quand même assez lointain, donc je vais un peu éviter de trop chier sur le film parce que je chie sur mes souvenirs. Du coup, mais j'avais vraiment pas le souvenir de quelque chose d'aussi exaltant que Man of Steel où clairement le budget, là pour le coup tu sais où il est passé, les scènes sur Krypton, tout le début avec l'explosion, enfin
oui,
perso c'est quelque chose que j'avais jamais vu, et clairement Man of Steel est ma porte d'entrée avec l'univers un peu DC, les super-héros et tout ça, et c'est vrai que j'avais été quand même assez bluffée par tout le spectaculaire du film, ce grand traitement lyrique. Pour le coup, ça déborde de pognon, mais on voit où il est passé.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Oui, et puis c'est vrai que l'approche, elle est évidemment, c'est placé par rapport à Marvel. C'est pas nous qui bloquons là-dessus. C'est que en face, à ce moment-là, Marvel a fait plus d'un milliard avec le premier Avengers, a créé un truc absolument inouï et jamais vu. Peu importe si on aime ou pas, c'est du jamais vu historiquement Hollywood. Donc forcément, ils se disent comment on se positionne par rapport à ça. Dark Knight a été lancé, la trilogie en parallèle. Donc là, c'est le premier film officiel post MCU dans le sens qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon et comment on peut se placer contre eux. Donc il faut un film qui retient le meilleur du MCU, c'est-à-dire du grand spectacle. Il faut qu'on t'en foute plein la gueule, mais d'une manière très différente. Donc là, effectivement, comme tu dis, Borah, c'est l'emphase, c'est le lyrisme, c'est ultra premier degré. Superman, c'est tellement Jésus que si tu passes à côté, c'est que t'as les yeux fermés. Et la musique est pompeuse et les gens, c'est très dramatique. Quand Superman, il tue Zod, il hurle en pleurant et les gens, ils s'aiment, ils se tiennent la main. Vraiment, c'est ultra premier degré. C'est le contraire de Marvel, mais c'est vachement bien qu'il y ait une proposition à l'époque qui soit faite avec autant de thunes chez un autre studio et plein d'ambition.
Ils ont vraiment réussi à imposer une alternative. Et d'ailleurs, ce narratif, il va rester jusque aujourd'hui, où il y a des communautés en ligne qui sont dans des genres de... Comme s'il y avait des casernes, quand on dit « Oh, on a bien tel film de tel univers », ils vont te dire que c'est pas spécifiquement parce que t'aimes pas celui de l'autre univers, ou inversement, comme s'il y avait une genre de guéguerre et que l'un était sombre et l'autre, il était rigolo. Et finalement, c'est un peu DC qui a réussi à imposer ce narratif-là avec Man of Steel, bon, et ensuite Batman vs Superman, ouais. où ils ont vraiment, ils sont arrivés, ils ont dit, bah, on fait pas du sous Marvel, on fait aussi notre univers étendu calqué sur leur modèle, mais avec une approche qui est beaucoup plus, premier degré, avec une imagerie, on va dire, un peu plus, un peu catho. En poulet, ouais, peut-être.
Je pense pas que ce soit vraiment un reproche, mais je trouve qu'il y a ce style un peu en poulet, va bien avec le concept de Superman, qui est déjà une histoire assez en poulet en elle-même.
Mmh. Oui, tout à fait. Mais ce que j'ai revu pour cette réunion, et à l'époque j'avais été très déçu, je me rappelle, justement pour ces raisons-là, et en le revoyant maintenant, et bon, évidemment à l'aune de tout ce qu'il y a eu par la suite, j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir, j'avoue. En fait, notamment parce qu'il y a quelque chose qui a... assez peu, je trouve, dans le cinéma hollywoodien actuel, qui est que c'est généreux que...
Exactement.
Alors oui, ça se prend beaucoup trop au sérieux, la narration, le truc christique, le truc un peu randien qu'il y a chez Snyder, tout ça, bon, ça a tendance à m'exaspérer, mais les 40 dernières minutes, ils éclatent un building tous les 30 secondes, puis tout est hyper laudatif. Franchement, ça a de la gueule, c'est quand même plutôt bien réalisé. Les séquences où ils se bastonnent dans la vitesse grand V, ça pourrait être très ridicule, mais il arrive à très bien réaliser.
Il rase la ville, quoi. Ça explose de tous les côtés et c'est... Effectivement, c'est ultra excitant. Même dans le premier Avengers, il n'y a pas autant de spectacles, je trouve.
C'est ça, quand du coup tu revois la scène un petit peu calquée dans The Flash, où ils sont juste au milieu d'un pauvre désert avec genre 4 figurants, tu te dis, mais on est vraiment passé de le spectaculaire à un truc rachitique au possible.
Et moi, je sais que le début vraiment de Man of Steel, la musique d'Hans Zimmer arcade, elle est super. Et cette espèce de vraiment d'ouverture de si Mathieu, elle est très bien. On a fait une réunion sur Hans Zimmer, tu sais que j'adore ce morceau.
La musique de la Discord, mais...
Oui. Et le fait de commencer un film de super-héros dans l'espace avec un truc apocalyptique comme ça, et vraiment t'es en plein milieu du chaos avec une direction artistique, t'as Russell Crowe sur une espèce de bestiole volante et tout, je sais pas, c'est vraiment, ils y vont à fond quoi, ils sortent une carte cosmique dès le début, et ça à l'époque je me souviens m'être dit, mais oui, c'est exactement ça qui manque dans les Avengers et dans Marvel de l'autre côté, ou dans Superman Returns qui essayait timidement au début de se passer dans l'espace, mais c'était quand même un peu chiant, et sur Terre avec des poupées Barbie quand même, oui, le tout début il est à côté de Krypton.
C'est vraiment
Et même en termes de couleurs, je trouve que la photo de ce film évidemment se démarque largement de la photo qui est quand même assez tarte des Marvel qui sortent à l'époque.
50 Shades of Grey, l'original.
Ouais, c'est ça. Donc, il y a vraiment un truc spécial qui se passe à l'époque, qu'on aime ou pas. Je sais qu'à l'époque, le film a pas mal divisé. On parlait du budget, donc il a coûté. Tu disais combien, toi, Déborah ?
Entre 200 et 225.
Ouais, parce que j'ai vu que potentiellement, c'était encore plus que ça. Et pour replacer, le Dark Knight, c'était 185 millions. Dark Knight Rises, 230 millions. Et les Avengers, le premier, à peu près 220-225. Donc, c'était un film qui, vraiment, ils avaient sorti les gros chéquiers pour faire ce film. Et combien a-t-il fait au box-office ? C'est là, peut-être, que ça commence le début des emmerdes. Il a fait à peu près 668 millions au box-office.
Ouais,
ce qui est bien,
ce qui est pas mal, mais quand tu vois la thune qu'ils ont mis dedans et le nom Superman et l'importance du film, on aurait pu s'attendre peut-être un peu à mieux.
Après, ils se sont peut-être dit que c'était plus que Batman Begins au commencement, du coup, que si ça faisait un peu plus, ça ne pouvait que monter en puissance par derrière et que l'excitation allait grimper, surtout si tu rajoutes Batman dans l'équation et tout ça.
Parce que Batman Begins, c'était 373 millions, donc on est beaucoup plus, mais c'est vrai que Batman Begins, il n'y avait pas encore l'effet d'excitation Avengers et tout, donc peut-être qu'ils ont été un peu déçus, mais le chiffre est tout à fait honorable. En tout cas, la suite et tout le bordel a été lancé, donc c'était pas un flop, contrairement à Superman Returns où clairement tout a été annulé et ils ont arrêté d'en parler. Mais oui, c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque la critique était mitigée, c'était pas un triomphe, il me semble que la critique même était pas aussi enthousiaste qu'avec les premiers Marvel. Il y avait déjà un petit effet de petite timidité, petit moui, c'était pas un triomphe, quoi, on va dire ça comme ça. Et c'est là qu'on arrive au début peut-être officiellement des emmerdes, BVS, sachant qu'en 2016, il y a Suicide Squad et Batman v Superman. Donc Batman v Superman, c'est celui qui est lancé pile après Man of Steel, puisque en gros, une fois que Man of Steel est sorti, il faut se dire, on continue, on fait une suite. Donc en théorie, un truc qui s'appelle Man of Steel 2 aurait dû arriver. Mais Zack Snyder raconte que très rapidement, dans la réunion, il a discrètement suggéré, et si Superman il affrontait Batman? Et il explique, ce qui est pas déconnant, après avoir affronté Zod qui est un peu son équivalent, qu'est-ce qui peut être plus fort que Zod et qu'est-ce qui peut être un enjeu vraiment de taille face à Superman? Et il s'est dit, pourquoi pas Batman? À un moment, l'idée était peut-être de le faire apparaître à la toute fin de Man of Steel 2, d'avoir un peu un teasing du genre une caisse de kryptonite qui arrive dans le manoir de Bruce Wayne pour teaser un troisième. Bon, en fait, il se trouve que clairement, Man of Steel 2 est devenu la porte d'entrée du giga-univers. C'est devenu littéralement un film Batman et Superman. Et, oui. Pardon.
C'était pour après prendre la parole.
Ok.
Je réserve.
Et très rapidement, donc, le film Man of Steel sort en 2013. Et en août 2013, on a déjà Ben Affleck qui est casté en Batman. Donc les trucs avancent très vite. Et en gros, c'est vraiment l'excitation qu'il y a sur les films de super-héros à l'époque, notamment chez Marvel. Un film sort, on annonce la suite, on commence à projeter. C'est pas encore établi que Marvel a un calendrier sur les 5 prochaines générations de votre famille. Mais il y a déjà quand même un truc de allons très vite. Donc Ben Affleck est casté. Évidemment, tout le monde s'énerve en partie contre le casting de Ben Affleck. Rappelons que Michael Keaton, déjà à l'époque, ça avait énervé tout le monde. Aucun Batman. Voilà, c'est donc pour le coup rien à signaler de ce côté-là. Fin 2013, Gal Gadot est castée en Wonder Woman.
Aurait dû s'inquiéter.
Hein
là,
on...
Les gens n'étaient pas contents. Les gens n'étaient pas contents
oui,
aussi pour elle.
Elle n'avait pas assez de seins, elle était trop ceci, trop cela.
C'était pas pour les meilleures raisons. Quoi.
Oui, voilà, c'était un peu...
J'étais plus sur le côté athlétique, mais je n'avais pas pensé au sein.
Ouais, si, elle a même répondu officiellement. Hein, c'était ridicule. Je crois qu'elle a dit un truc sur... mais en fait, les Amazones sont censées avoir 3 seins. Ou je ne sais pas. Elle a commencé à dire, mais en fait, c'est la réalité du truc. Il faut arrêter les gars, il faut vous calmer. C'est comme Lara Croft quand elle a été recastée avec Alicia Vikander. Enfin bon, bref, disons que le truc avance très vite et ils veulent poser les premières briques de l'univers étendu. Zack Snyder a dit que dans une des versions du scénario, il y avait Joker et Riddler qui apparaissaient pour encore une fois teaser l'univers étendu. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive avec un film qui est donc officiellement un premier film d'un univers très étendu avec les mini caméos disques durs clés USB de Aquaman, Cyborg et The Flash. Et oui, c'est ça, c'est tous les trois. Hein. Oui. Et Wonder Woman qui apparaît évidemment dans le film. Donc personne n'aime trop Batman vs Superman, je crois, chez nous.
Je développerai un peu mon avis après, mais là-dessus, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu s'attendre à un format vraiment à la Marvel, c'est-à-dire un film Superman, un film Batman, un film Wonder Woman, et ensuite le Justice League qui assemble tout le monde. Pour le coup, je trouvais vraiment que l'idée de directement partir sur un Batman vs Superman, c'était très intelligent. En tout cas, assez couillu. Ouais, parce que, en fait, tous les autres affrontements de Superman versus un des méchants emblématiques ou Batman versus le Joker ou autre méchant emblématique, ça avait un peu déjà été fait, alors que la confrontation Batman-Superman au cinéma, c'était inédit, en fait. On l'avait eu dans un film animé. Voilà, en 2012, voilà, il y avait eu Batman The Dark Knight Returns de Jay Oliva et c'est dans la deuxième partie.
Moi, je pensais juste Je suis une légende avec Will Smith qui marche devant... l'affiche dans le futur post-apocalyptique de ce film qui a été fait après. Ça, c'est très drôle.
Et il y avait eu, comme très souvent à chaque fois qu'on parle d'un film de super-héros, c'est des idées qui traînaient dans des tiroirs depuis très très longtemps. En 2002, il y a Wolfgang Petersen qui était censé faire un film Batman contre Superman.
Ouais, pas mal.
Voilà, il y avait Andrew Kevin Walker qui était au scénario et c'était annoncé comme un projet, là encore, très 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 sombre. La chose la plus sombre que vous avez jamais vue, d'après Akiva Goldsman, qui en fait plus tard a fait des réécritures sur le scénario.
Sachant que Andrew Kevin Walker, c'est le scénariste de Seven, donc c'est pas mal. Avec le réalisateur Peterson, ça aurait pu donner un truc pas mal.
En fait, je vous lis quelques trucs. Normalement, le film était censé commencer sur les funérailles d'Alfred, sur Bruce Wayne qui était tombé amoureux d'une femme et qui du coup lâchait le costume de Batman, et le Joker qui... commandité par Lex Luthor, tuer la femme de Bruce Wayne, ce qui fait qu'il le rendait complètement fou. Et donc Batman était sur le point d'achever le Joker jusqu'à ce que Superman lui dise non, c'est pas bien, les héros ça tue pas, et du coup il y a bisbille entre les deux.
C'était le début du film, ça?
Ouais, c'était
ça, censé
être beaucoup
d'informations quand même.
C'était censé être le début du film, donc okay. Voilà, un truc très sombre, très torturé, très Dark Sasuke, comme tu dis. Mais ça a finalement été abandonné au moment où Batman Begins est entré en production.
Okay.
Donc voilà, donc c'était quand même une idée qui germait depuis un moment. C'est vrai que Batman contre Superman, c'est une affiche qui est super excitante, en fait, plus que Joker ou Lex Luthor ou machin.
Faudrait comptabiliser le nombre de projets que la trilogie de Nolan a avorté d'elle-même. Enfin, c'est un truc de dingue. Si tu comptes Justice League Mortal, tous les projets dont on a parlé auparavant, puis celui-ci... Que ce soit grâce à son succès ou juste son existence, ça a annulé un nombre de projets incroyables.
Mais là, la pré-production avait quand même bien avancé, puisqu'on parlait de Colin Farrell dans le rôle de Batman et de Jude Law dans le rôle de Superman.
Ok, j'essaie d'imaginer, j'arrive pas, mais d'accord.
Jude Law, c'est bizarre. Hein.
De toute façon, il y a un acteur à Hollywood qui n'a pas été à un moment évoqué ou qui n'a pas été casté ou qui n'a pas passé des essais pour jouer Superman ou Batman. Franchement, quand tu vois que Amy Adams, avant de jouer Lois Lane, avait passé les essais deux fois pour jouer Lois Lane, notamment dans le Superman Returns, et elle l'a eu au bout de la troisième fois, et c'était un rôle qu'elle voulait trop avoir. Donc tu dis, mais en fait, c'est vraiment... Si t'es à Hollywood et que t'as pas passé un casting pour un Superman ou un Batman, t'es passé à côté de ta vie, quoi. Ou alors t'es chez Marvel.
Après, elle est très bien. Franchement,
elle est super bien.
Je trouve qu'elle
est bien partout,
parfaitement castée. Ouais. Au-delà du fait qu'elle joue bien, elle a vraiment le côté reporter bourrin, quoi. Tu vois. ça aurait été Michael Bay, il aurait mis Megan Fox. Non mais vraiment, genre, je trouve que...
Mais c'est ça, le talent de Man of Steel et cet univers, c'est qu'ils ont quand même au début casté des bons acteurs pour que dans des rôles un peu nuls, avec trois répliques, ils arrivent à ancrer, que ce soit d'un point de vue cinéphilique, parce que quand t'as un Laurence Fishburne qui dit trois répliques de merde, tu dis bon, je sais qui c'est, donc c'est un peu marrant, mais aussi juste des gens qui ont de la stature, qui ont du charisme, qui savent très bien gérer. Enfin voilà, c'est comme un film d'horreur pourri avec un très bon acteur ou une très bonne actrice, ils arrivent à ancrer, je trouve, le truc, et notamment au Daily Planet, avec Amy Adams et Laurence Fishburne.
Laurence Fishburne, si... ils avaient été au bout de leurs idées pour l'univers étendu, ça aurait pu être un personnage un peu fil rouge, tu vois.
Un personnage, tout court.
Un vrai personnage, voilà.
Donc, pour en revenir à BVS, aussi, qu'est-ce qu'on pense du casting de Ben Affleck ? Parce que je sais qu'à l'époque, évidemment, il y avait beaucoup de pour ou contre.
Moi, c'est plutôt les raisons, enfin, une des raisons pour lesquelles ils l'ont casté qui m'avait fait rire, c'était oui, il fait 6 cm de plus que Henry Cavill, du coup, ça veut dire que Batman, il sera plus grand que Superman et que Superman sera obligé de lever un peu les yeux pour regarder Batman.
Ah ouais.
Voilà. C'est... Donc il y avait la volonté de caster un acteur plus âgé que Christian Bale dans The Dark Knight, mais il y avait aussi cette raison de Ben Affleck, il est un peu plus grand qu'Henry Cavill. D'ailleurs, je suis vraiment allée vérifier sur internet parce que j'avais du mal à y croire. Oui, c'est vrai. Henry Cavill n'est pas si grand que ça.
Ok, bah il peut pas être parfait. Écoute, hein, il peut pas tout avoir.
Mais ils sont au courant qu'ils volent Superman.
Bah il y a des moments ils sont l'un devant l'autre dans la rue, hein, sous la pluie. Souviens-toi.
Peut-être. Donc, en vrai, pour le coup, en plus, encore une fois. À l'époque, plutôt bon choix. Je trouve la promotion était très efficace. Le fameux teaser du Do You Bleed, je me rappelle. Personnellement, je me rappelle. C'était devenu un mème, tout le monde en parlait, avec l'armure sous la pluie. Ouais. Bon, très Snyder hein, comme imagerie. Mais ça fonctionnait.
Mais c'est vrai que là, tu disais, Déborah, que pour toi, c'était un peu une très bonne idée de les voir s'affronter. Et moi, j'hésite un peu à entre très bonne idée et un peu kamikaze. Parce que je comprends le côté industriel de... tu prends les deux figurines les plus populaires de ton univers et dès le deuxième film, elles s'affrontent. C'est comment rattraper le temps perdu sur Marvel qui ont 5, 6, 7 ans d'avance. Et d'un autre côté, je me dis, bah, c'est peut-être un peu beaucoup tôt. Et surtout, si le film n'est pas à la hauteur, qu'est-ce que tu fais après ça ? Et c'est un peu le problème qui s'est posé après.
Bah, j'avoue que sur juste l'affrontement Batman-Superman, je trouvais ça cool. Que en plus, tu rajoutes donc Wonder Woman qui rentre par la petite porte. Et en plus, cette scène, mais tellement infâme et mécanique, clé USB pour te présenter toute la Justice League avec des caméos. Là, tu dis, ok, en fait, le film, il a quand même beaucoup apporté. Il est quand même parasité.
Et Lex Luthor.
Donc, il est quand même parasité par pas mal d'autres trucs que juste la confrontation qui, pour moi, était... C'est pas pour moi, c'est le titre du film, hein, c'est le cœur du film. Et donc, du coup, rajouter tous ces éléments pour créer le giga-méga-univers et avec des obligations scénaristiques, c'est pour moi ça vraiment qui le mine, en plus du charcutage en post-production.
Et on peut parler, mentionner la scène où il se réveille après les clés USB devant son ordi et t'as The Flash qui apparaît, qui lui dit « Lois Lane is the key » et il a une vision de l'apocalypse du futur où Superman est devenu très méchant et tout. Donc, les pierres qui sont placées pour un truc qu'on ne verra jamais vraiment, sauf peut-être Snyder Cut...
Le fameux Nightmare qui a lancé qui a un peu lancé le culte du DCU à la Snyder.
Mais c'était la première pierre. C'est dès le deuxième film déjà, ça fait beaucoup d'éléments.
Voilà,
tu comprends pourquoi, parce qu'encore une fois il fallait rattraper le temps perdu, mais c'est un peu ce qui les a amenés dans le mur. En tout cas, quand on regarde les chiffres, le film qui a coûté plus de 250 millions officiellement, mais dans les 300 millions selon certaines sources, ce qui serait pas étonnant vu quand même l'ampleur du film, avec un budget marketing de 150-160 selon Warner eux-mêmes, au box office il a fait 873 millions. Donc pour rappel, le premier, Man of Steel, c'était 670 millions environ. Donc pour un deuxième film qui crame la cartouche Batman et Superman ensemble pour le grand retour de Batman après la trilogie Dark Knight, je pense qu'on n'abuse pas en disant que c'était pas forcément à la hauteur de leurs attentes.
Bah, c'est The Hollywood Reporter qui avait fait un rapport avec plusieurs sources du studio, bon, qui était resté anonyme et qui disait clairement que l'objectif était le milliard. Que si avec Batman et Superman à l'affiche, ils faisaient pas le milliard, ça allait être compliqué pour la suite. Et quand on regarde les chiffres, bah, c'est quand même moins que Civil War et le premier Deadpool.
Ouais, Deadpool, je pense que ça les a atomisés. Ça a dû leur briser le cœur de se dire, mais ils ont dépensé. Genre, c'est quoi Deadpool? C'est 60 millions, un truc comme ça, hein? Le truc, il fait.
C'est juste Ryan Reynolds qui fait des blagues scato pendant 1h30. Ça a dépensé leur méga Deadpool.
Je sais pas combien, centaines de millions. Et eux, ils sortent Batman et Superman, et genre, ça fait moins bien. Mais comment tu peux te remettre de ça, quoi? C'est vraiment l'humiliation totale, quoi. Et oui, parce que donc tu disais Civil War a fait 1 milliard, Avengers 1 et 2 avaient fait plus d'un milliard, Deadpool il a fait 780 millions pour un budget effectivement de 60 millions, et encore une fois, Batman v Superman qui a coûté on va dire un peu moins de 300 millions a fait 873 millions seulement. Alors je sais, quand on dit seulement, on a l'impression d'être complètement taré, et oui, c'est un peu taré de dire que c'est pas beaucoup, mais voilà, c'était sûr qu'ils visaient beaucoup plus que ça, parce qu'ils ont absolument fait jouer carte sur table, quoi. Il n'y avait plus rien.
Non, mais c'est sûr qu'avec un film comme ça, tu cherches pas juste à te rembourser, tu cherches à faire mes max de profit, et là, bah, c'est petit profit. C'est pas un échec, mais c'est clairement pas la réussite attendue.
Au-delà de chiffres qui ne sont pas à la hauteur, j'ai l'impression que c'est le début d'une phase où les chiffres surtout sont très étranges par rapport à ce qu'ils voulaient faire, puisque quelques films plus tard, il y a Aquaman qui va taper le milliard, lui pour le coup.
Ouais.
Personnellement, je ne sais toujours pas comment ouais, c'est ouais. possible. Hein. Et ouais, je pense que à un moment, quand ils ont vu que plus rien n'avait de sens dans ce que eux s'attendaient de ce qu'ils étaient en train de faire, c'est là qu'ils ont un peu commencé à faire de la merde aussi, tu vois.
Parce que si on replace les trucs dans l'ordre, c'est un peu compliqué parce que tout ne s'est pas passé étape par étape. En fait, il faut vraiment se dire qu'après Man of Steel, plein de choses ont été lancées en parallèle, puisque Batman v Superman qui a été annoncé dans la foulée, donc dès 2013, ce film se mettait en place officiellement. Sachant que d'ailleurs, c'est un peu drôle, Zack Snyder raconte comment le titre a été choisi. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi V et pas Versus, et dit qu'il y a vraiment eu de vraies discussions officielles et qui s'est battu pour qu'il n'y ait pas VS versus mais V, pour que ce ne soit pas un affrontement trop mécanique et trop bête, et que dans les qu'il y ait une sorte de sous-texte un peu plus complexe et nuancé à l'image de son film.
C'est surtout pour faire de la pub pour Véro, son réseau social préféré.
Et dans les titres qui ont été un peu évoqués, il y avait l'idée de faire un film qui s'appelle Justice League 2. Quelque chose des Batman vs Superman, notamment Justice League Foundation, Justice League Rising, et apparemment Zack Snyder avait envie d'un truc un peu poétique qui s'appelait Son of Sun and Night of Night.
Donc... Ah, mais ça aurait été un peu suicidaire. Déjà, Man of Steel, je trouvais ça assez suicidaire de pas mettre Superman dans le titre.
Mais très joli.
Oui, c'est vrai que c'était joli, mais du coup, non, là, pour le deuxième, il fallait vraiment un marqueur fort pour le public, t'imagines. Que tu saches que tu vas voir en tant que spectateur.
Je vais aller voir Son of Sun et Night of Night.
Désolé, mais c'est tellement un peu de la poésie de primaire, quoi. Là.
Ouais. On dirait le même Internet avec Nekfeu en train d'écrire comme ça.
Là. C'est vrai.
Mais en tout cas, en 2013, donc Man of Steel 2, qui devient Batman v Superman, qui devient l'espèce d'embryon de Justice League, est lancé. Mais en 2014, pendant que tout ça est développé, le DCU, Warner, commence déjà à annoncer leur grand projet à la Marvel, à la MCU, et annonce 10 films d'un coup. Donc Batman v Superman n'est pas sorti, seul Man of Steel est sorti pour avoir un succès tout à fait honorable, et DCU annonce 10 films. Batman v Superman et Suicide Squad en 2016, Wonder Woman et Justice League Part 1 en 2017.
Jusqu'ici,
à l'époque, il y a
tout
deux
va
parties.
Un peu plus bien.
En 2018, il devait y avoir The Flash et Aquaman. Donc là, on n'a pas eu The Flash, hein, comme on le sait. En 2019, Shazam et Justice League Part 2. Tout. Mais je parle en anglais et pas en français. Et en 2020, on avait Cyborg et Green Lantern. Donc déjà, on peut voir là, si on fait l'espèce d'état des lieux, il y a 3, 4, 5 films qui n'ont pas vu le jour. Et bon, bah là, ça fait un peu inspecteur des travaux finis, mais évidemment, ils ont sûrement été trop vite en besogne. Et au milieu de ça, au-delà des galères qu'il y a eu en coulisses, il y a eu juste Batman v Superman et Suicide Squad qui n'ont pas marché à la hauteur. Donc peut-être qu'on peut arriver au cas Suicide Squad, qui est peut-être vraiment le tournant absolument majeur et sûrement dont personne ne se remettra. Et en même temps, je constate que ça fait déjà quasiment une heure qu'on discute et qu'on a fait seulement 2 films sur une 15aine de films. Donc bravo, clairement, j'ai été optimiste. Hein. On a encore du pain sur la planche, donc je vous propose de reprendre la semaine prochaine pour la suite de la réunion. Hein. Ça nous laissera un peu de temps pour revoir les prochains films sur la liste, notamment Suicide Squad, Wonder Woman, Aquaman, Justice League. Il y a déjà tellement de choses à dire sur ça, particulièrement sur Suicide Squad et Justice League, les deux films sabotés et détruits qui ont nourri tant de fantasmes. Mais bon, disons qu'on va y arriver, hein. Disons aussi qu'un jour on fera notre foutu podcast, hein, comme on parle de miracle. On en parle depuis des années parce qu'on a envie que les gens nous écoutent, nous suivent, nous mettent de bonnes notes aux applications. Et justement, si le Snyder Cut est possible, alors tout est possible, même le podcast d'écran large, un jour.